Hashem Rihachal. J'ai réfuté totalement ce qui
se passe. Moi, c'est une des combattis au Kankanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la critique de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue dans Parole aux auditeurs sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. La RDC vient de découvrir un gisement de 700 millions de tonnes de cuivre dans une mine des Kamoa à 40 km de l'est de Kolwezi en cette période où les estimations de la réserve mondiale de cuivre seraient autour de 480 et 600 millions de tonnes. Cette découverte a été rendue publique par Ivano Mine, une entreprise minière qui détient 68% des parts contre 32% pour la compagnie publique Gécamine. L'exploitation de cette mine maintient la République démocratique du Congo au niveau mondial parmi les 10 premiers producteurs de métal rouge en millions de tonnes. Nous en débattons aujourd'hui avec comme question principale: que faire pour consolider cette performance et ainsi relancer l'économie de la République démocratique du Congo? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081 890 7315 pour votre intervention en direct. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Dieudonné Nyangasa est à la mise en onde. Jirifeza Bongonda et Pierrot et la Meji réalisent ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Bienvenue à tous.
Radio Capi fait son 13e anniversaire avec les étudiants de l'IZIPAMUSI à Kinshasa. Au menu, une émission spéciale sur le bon usage des médias sociaux, sur les débouchés après des études en informatique et bien d'autres sujets encore. Au Capi Service, un rendez-vous exceptionnel à ne pas rater ce vendredi 13 mars 2015 de 9h à 11h, heure de Kinshasa. Au Capi Service, à votre service.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Nous recevons dans ce studio pour partager cet échange citoyen avec vous, chers auditeurs, partout où vous nous suivez, en Europe, aux Amériques et ici au pays, par rapport à cette thématique du jour autour des gisements qui vient d'être découvert par une entreprise minière qui évolue en RDC. Nous recevons donc, disais-je, Louis Watum, DG d'Ivanoé Mine, qui est avec nous dans ce studio. Monsieur Louis, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, d'entrée des jeux, qu'est-ce qui justifierait cette performance réalisée par la RDC?
Ben, je dois dire que c'est réellement un concours de circonstances, hein, de plusieurs circonstances. Il faut se rappeler qu'on a eu un code minier en 2002 qui a été promulgué, a été mis en application dans notre pays et qui a défini un cadre sécurisant pour les investissements. Il y a aussi la stabilité politique dont on a joui toutes ces dernières années. Et il y a aussi le sens de l'entrepreneuriat, je dois dire, de M. Robert Friedland, qui a pris le pari d'investir tout cet argent dans la recherche, parce que ce gisement-là a été trouvé à coût de 315 millions de dollars investis. On a foré plus de 300 000 mètres. Et bien sûr, il y a aussi le génie, le savoir-faire, disons, de l'équipe des géologues, qui s'est mis à l'œuvre et qui a travaillé pendant toutes ces années, durement, pour découvrir ce gisement.
Alors, une performance très significative qui est allée même au-delà de la réserve mondiale. Donc, on peut dire qu'il y aura certainement des retombées ce que nous appelons dans les cadres immédiats des villes congolais.
Oui, bien entendu. Parce que, comme vous savez, au-delà de l'avance des chiffres, ce qui intéresse les nôtres, c'est qu'est-ce qu'il y a pour eux, qu'est-ce qu'il y a pour nos populations. Effectivement, nous savons qu'il y a un débat de fond sur l'inadéquation des richesses qui sont générées dans notre pays et sur le vécu quotidien des Congolais et des Congolaises. Mais je pense que la responsabilité incombe à nous tous de veiller à ce que ces richesses qui sont générées puissent réellement bénéficier à nos populations.
Voilà. Alors aujourd'hui, c'est vrai, votre entreprise qui travaille avec la Gécamine,
voilà, donc vous avez donc Ivano Email à 68% des parts contre 32% pour la compagnie publique. Nous n'entrons pas dans peut-être les calculs les plus simples, comment on pourrait faire la répartition en fait par rapport à cette retombée. Mais parlez-nous un peu de l'exploitation minière à ces jours, parce qu'on sait qu'on a connu un boom minier, mais il y a pas mal de défis qui restent encore à relever. Entre autres, la révision du contrat des contrats miniers tant réclamé par certains observateurs et aussi et même certains opérateurs miniers. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres défis qui restent encore à relever pour permettre à ce que, au fait, le secteur soit assaini, comme tout le monde l'entend?
Oui, avant toute chose, j'aimerais quand même porter un rectificatif. Ivanhoe a des opérations ici en RDC et se constitue en 5 sociétés. Et dans ces 5 sociétés-là, le partenariat avec la Gécamines ne fait partie que d'une de nos sociétés. C'est un partenariat à 68-32%, comme vous avez dit. Ça, c'est autour de la mine de Kipouli, essentiellement. Kamoa, à ce jour, c'est aussi une société, Kamoa Copper, c'est ça, comme nous l'appelons. Cette société, elle est pratiquement, Ivanhoe y est seul, avec l'État congolais qui a 5%. Ces 5%, c'est parce que lorsqu'il faut passer des permis de recherche, en permis d'exploitation, la loi veut que 5% soit cédé à l'État. Et les 95% qui restent appartiennent tous à l'entreprise, jusqu'à ce jour du moins. Il y a peut-être un certain pourcentage qui pourrait être cédé lors des transactions futures à venir. Et c'est ça la situation aujourd'hui.
Ces 5%, c'est pas significatif pour le gouvernement.
Ça, c'est la loi qui le dit. La loi dit, lorsque vous faites une transformation de vos permis de recherche en permis d'exploitation, vous devez laisser 5%. Maintenant, les 95% qui restent, rien n'est figé. C'est-à-dire, c'est ouvert à certaines négociations qui pourront venir. C'était juste une petite précision que je voulais faire. Maintenant, en termes de défis, c'est vrai, le code minier aujourd'hui est encore sur le tapis, en train d'être débattu. Nous sommes de ceux-là qui vont continuer à dire que nous avons un code minier qui est dans son ensemble bon, qui demande certains aménagements, certes, mais on doit vraiment faire attention à la fiscalité. Qu'on évite d'avoir une approche short-termiste, où on veut maximiser la fiscalité et décourager les investissements. C'est cela qui pourrait être dangereux et détrimental à notre industrie. Donc, nous sommes cependant contents que le gouvernement a ouvert une porte pour que nous puissions dialoguer et que nous puissions trouver une solution en ce sens de consensus autour du code minier. Les autres défis, bien sûr, c'est l'énergie électrique. Vous savez qu'aujourd'hui, au Katanga, il y a près de 500 MW de déficit énergétique. On peut rêver de créer, de produire beaucoup de cuivre, beaucoup de cobalt, etc., mais il faut de l'énergie électrique. Et cela vient avec un coût. Et il faut absolument qu'on mette des stratégies en place pour pouvoir combler ce déficit énergétique. Et un autre défi aussi, c'est la logistique. Vous savez, la logistique pèse énormément dans les coûts opératoires pour un opérateur minier. C'est vrai, il y a le corridor de chemin de fer, lorsque vous partez du Katanga vers le sud, le port du Durban. Il y a aussi la bretelle qui va vers Walvis Bay, en Namibie. Mais il est très important de noter qu'il y a des accords maintenant que nous signons avec l'Angola, qui ont été signés récemment. Parce que le gouvernement angolais a déjà réhabilité le chemin de fer qui part de son port de Lobito jusqu'à Dilolo, en RDC. Et donc, entre Dilolo et Kamoa, qui est juste à côté de Kolwezi, c'est environ 420 km. Et il serait important de réhabiliter cette section-là aussi, de telle manière que nous ayons une logistique efficiente et qui ne pèse pas trop sur le coopératoire. Voilà, brièvement, c'est voilà.
Alors, mais comment maintenir maintenant consolider cette performance, parce qu'on sait que cette performance ou cette découverte maintient la RDC parmi les 10 premiers producteurs de cuivre au niveau mondial. Alors, est-ce qu'on peut considérer ce que vous venez de dire, entre autres, comme préalable pour maintenir la RDC à cette position?
Je crois que ce qui va maintenir la RDC dans une position de leader dans cette industrie et qui va continuer à faire avancer notre économie, c'est une réalité triangulaire. Il y a d'un côté l'investisseur, de l'autre côté il y a l'État congolais et troisièmement il y a les communautés locales. Et chacun doit jouer sa partition ici. L'investisseur apporte les capitaux et la technologie. L'investisseur est censé aussi transférer cette technologie vers les communautés, vers les nationaux, pour qu'ils forment leurs connaissances et qu'ils puissent s'en dire dans cela. Et bien sûr, l'investisseur est tenu à respecter les lois qui sont en vigueur dans notre pays et avoir une responsabilité sociale dans tout ce qui est entrepris. C'est ça ce que l'investisseur doit faire. C'est ça sa partition à jouer. L'État congolais a une partition à jouer aussi. C'est d'abord sécuriser les investissements en mettant une législation qui permet justement de faire cela, mais c'est également en mettant un cadre incitatif pour que, avec une fiscalité qui est attractive, pour que les investisseurs puissent venir et puissent se sentir en sécurité. Et enfin, c'est accompagner les investisseurs dans ce qu'ils veulent réaliser. Et enfin, il y a les communautés qui doivent s'approprier le projet, qui doivent réellement apporter l'infrastructure soft en termes de leur savoir-faire, de leur sens de l'éthique et de leur sens du travail.
081-890-6315 pour votre intervention en direct, et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. À très bientôt.
Parole aux auditeurs.
Nous avons le premier auditeur qui est en ligne. Franck, vous êtes à Vienne, en Autriche. Bonjour Franck.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi à l'invité, bonjour aux amis avec qui nous allons nous échanger.
Alors je l'ai dit en sommaire, la RDC vient de découvrir un gisement de 700 millions de tonnes de cuivre dans une mine de Kamoa à 40 km à l'est de Kolwezi, en cette période où les estimations de la réserve mondiale de cuivre seraient autour de 480 et 600 millions de tonnes. Alors comment vous commentez cette actualité et que faire selon vous pour consolider cette performance et ainsi relancer l'économie du pays?
Oui, merci beaucoup pour la conscience pour le sujet soumis au débat. Je crois que ce n'est pas pour la première fois qu'on découvre ce qui est regorgé dans notre sous-sol. On est parti de découverte en découverte et à des minéraux qu'on peut trouver que chez la République démocratique du Congo. Quand nous nous échangeons avec les autres, on sait que nous révéler que notre pays c'est comme un paradis minéral. Mais le paradoxe, c'est quand on se rend compte qu'il n'y a pas de retombées manifestes sur la vie du quotidien. Donc, on peut le découvrir, on peut l'exploiter, mais la question que nous pouvons nous poser, est-ce que ça va profiter au vécu quotidien du peuple congolais? Pas n'importe quel peuple congolais, du peuple congolais moyen. Parce qu'on va le découvrir, ça sera vendu, il y aura des contrats qui seront signés par-ci, par-là, il y aura des explications qu'on va nous donner. Mais en définitive, dans la plupart des cas, les retombées ne profiteraient qu'à un groupe d'individus. Mmh. Et par rapport à la question que vous avez posée, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'on doit faire, c'est d'abord de mettre les intérêts du peuple au centre. C'est d'abord de comprendre que la RDC appartient aux Congolais et que s'il y a des histoires qu'on découvre, ça devait plus profiter au peuple congolais qu'aux autres. Donc, il faut pour l'ensemble de nos dirigeants congolais, un sens de responsabilité au plus haut degré, donc de se dépasser un peu de leur égoïsme, de leur individualisme, de leur complaisance, afin de promouvoir les intérêts de la nation. Sinon, on va partir de débat à débat, on a découvert ceci, on a découvert cela, mais est-ce que ça profite au vécu quotidien du peuple congolais? Essayez un peu de circuler dans tous les coins de la RDC. Voyons dans quelles conditions les Congolais vivent. Mais on sait que ces Congolais ont un pays vraiment riche, et le sous-sol est riche à ceci, à cela, mais est-ce que le Congolais moyen en profite? Je crois que c'est à ce niveau-là qu'on peut interpeller la conscience des uns des autres.
Oui, mais Franck, on sait tout de même que au niveau des opérateurs miniers, il y a un contrat social qui est signé également pour, en fait, répondre à ces différentes retombées que les opérateurs miniers réalisent, en tout cas à chaque fois, pour permettre à ce que les cadres de vie des Congolais soient également améliorés par rapport à cela. Mais nous savons tout de même qu'il y a 2 ou 3 ans, lors des différentes conférences économiques, le président de la République est revenu sur cet aspect des choses pour voir pour évoquer cet aspect de découplage entre les conditions de vie les sociales et le boom minier. Donc on sent que il y a rien qui est fait. Merci d'avoir révélé encore cette question. Je crois que notre invité pourrait nous éclairer, comme lui il fait partie de cette entreprise qui vient de découvrir donc ces gisements. Est-ce que ça va vraiment profiter à la population? Nous verrons peut-être dans quelle mesure ils ont placé leur mécanisme
des garanties pour permettre à ce que la population puisse se retrouver. Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé de Vienne. Cyril, vous êtes dans le Bandundu. Bonjour.
Oui, bonjour, les journalistes. Bonjour aussi à notre invité.
Vous avez la parole, Cyril.
Oui, bravo pour l'RDC, monsieur le journaliste. Vous savez, les Congo n'est pas condamné à la pauvreté et à la guerre, mais à la richesse. Il n'est pas destiné au développement et à l'immobilisme, mais au développement et au progrès. Cette découverte de monsieur Ivano est meilleure dans cette mine hier aujourd'hui que pour les Congo du Bourbier où il s'est paralysé depuis très longtemps. Maintenant, en fait, que faire, monsieur le journaliste? Que l'État congolais protège et sécurise cette grande richesse. Il ne faut pas que ça soit politisé, qui ne précipite pas le minerai. Mais le problème que je veux parler ici, c'est au niveau de la gestion. Vous allez poser la question de comment consolider. Mais écoutez, moi je pense que les problèmes vont se poser au niveau de la gestion de cette minerai. Comment à envisager pour gérer
légitimement.
Que cela soit au profit des Congolais. Parce que, regardez, qu'est-ce que suppose ces élections? Les politiciens de ces pays seront tous d'aller pour découvrir cette minerai-là, que ce soit à leur propre profit, afin qu'ils servent de l'argent à une vente, à payer cet argent pour leur campagne électorale, tout etc.
Oui, donc votre inquiétude, Cyril, si je comprends bien, votre inquiétude repose sur la gestion même de ces gisements, la répartition, les royalties qui vont sortir, la part du gouvernement, l'opérateur minier, qu'est-ce qu'il gagnera, et la population aussi qui doit être au centre de tout. Donc en fait, c'est ça votre souci.
Exactement, monsieur le journaliste, vous faites vraiment des commerces à cause avec vous. Laissez-moi vous dire qu'il y a un problème de découpage aujourd'hui. Il y a un problème de quota aujourd'hui. Qu'on ne puisse pas rendre cette grande découverte, là aussi un problème de quota. Le minerai, parce que c'est dans le Katanga, ça appartient au peuple katangais, ça appartient à la majorité, ça appartient à tout ce qui est.
Non.
C'est pour l'intérêt de
la population. Merci beaucoup, Cyril. Cyril, merci beaucoup d'avoir appelé. Et voilà, vous avez rejoint quand même notre ami Franck, qui a appelé tout à l'heure de Vienne, en Autriche, et qui a également insisté sur cet aspect des choses, les paradoxes qui existent entre le boom minier et aussi le retomber sur, disons, dans les cadres de vie de Congolais. Donc, nous allons peut-être y revenir avec notre invité, qui est le DG d'Ivanoé Mine, qui, en fait, aujourd'hui, en honneur parce que ce sont eux qui ont découvert ce gisement de 700 millions qui dépassait très loin donc la réserve mondiale de cuivre qui, selon les estimations, tournerait autour de 480 et 600 millions de tonnes. Omar, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Omar.
Bonjour Gilles Longuembo, bonjour à l'invité, c'est Katou, merci de débattre.
Vous avez la parole Omar. Comment faire? Que faire pour consolider cette performance et ainsi relancer l'économie du pays?
Merci, Gilles. Je voudrais en ces jours compartimenter mon intervention en trois actes rapidement. Premièrement, dire un mot sur la découverte, sur le développement du peuple congolais et de la RDC. Et enfin, lister quelques solutions, tant soit peu, pour que nous puissions améliorer les choses. Par rapport à mon premier point, la découverte, c'est une très bonne chose. On ne peut que féliciter les bonnes choses. Donc, j'encourage et je félicite ceux qui l'ont fait et je demande au gouvernement de bien en gérer. Par rapport à son impact, mon deuxième point, c'est là que le problème se pose. J'ai lu un ouvrage d'une intellectuelle américaine, elle s'appelle Marina Atawen. C'est vrai que l'ouvrage ne m'a pas plu parce qu'il a comparé les Congo, elle a comparé les Congo à un œuf. Elle dit que lorsque l'œuf est mal encadré, il finit par pourrir et l'enfant ne naîtra pas. Il dit que les Congo est comme une histoire qui date de longtemps, un jour finira par tarir. Ça m'a énervé, mais lorsque j'ai lu en poursuivant le livre, elle a dit. Avec le potentiel minier que le Congo a, si les choses étaient bien gérées, si les impôts étaient bien payés, si la gestion et l'exploitation étaient rationnelles, on aurait fait la difficulté en vue aujourd'hui. C'est pour dire que hier, la découverte c'est bien, mais s'il faut faire allusion, s'il faut analyser, s'il faut scruter l'exploitation et la gestion du secteur minier en RDC, je doute fort que cette découverte puisse améliorer. Car aujourd'hui, nous vivons par des pratiques marginales, notamment. Est-ce que les opérateurs miniers respectent les contrats et ne payent pas les codes miniers? Beaucoup ne payent pas l'impôt. Ce sont les agents fiscaux véreux qui mettent cet argent dans leur poche. De deux, est-ce qu'il respecte ce que le code dit? Le code dit que tout exploitant minier doit, en outre son intervention entrepreneuriale, poser des actions sociales au profit de la population dans laquelle il œuvre. Mais est-ce qu'il les font? Le code minier n'est pas toujours respecté. Aussi longtemps que le code, qui a plus de 250 articles, accompagné des règlements miniers, qui a plus de 300 articles, tous les deux ne sont pas respectés, je ne pense pas qu'il y aurait un quelconque développement. Voilà pourquoi je vous dis, finir pour dire, nous ne sommes pas pessimistes, Gire, nous voulons le bonheur de ce pays. Moi, je pense que très bien avant, l'on doit avoir revisité les codes miniers. Si vous lisez les codes, il y a beaucoup d'écueils. Notamment, on tend à faciliter les opérateurs économiques. Il y a trop d'exonérations, trop d'exemptions, et ces gens exploitent, on dit qu'il faudra inciter les investissements, il ne faudra pas les encourager. On a allégé la fiscalité. Le domaine exige un paiement fiscal normal. Donc, on doit revoir cet aspect des choses-là. De deux, il faut qu'il y ait des mesures coercitives poussant les opérateurs miniers à faire ce qu'ils peuvent commencer, c'est-à-dire, à part leur activité minière, poser des actions sociales. Et je voudrais finir pour les gouvernants à dire, nous avons un potentiel minier non négligeable, extraordinaire, apprécié de par le monde. Le développement passe par une réelle volonté politique. La critique est aisée, l'arrêt difficile, nous avons souvent nos critiques d'avoir toujours donné. Mais je pense que si on a un minimum volontaire.
Oui, Omar, quelle est l'analyse que vous allez vous faire concrètement quant à certains observateurs qui estiment que cette découverte devait être annoncée par le gouvernement congolais au lieu que cela soit fait par l'entreprise elle-même qui venait de découvrir, donc Ivanhoe Mine. Donc vraiment, le gouvernement devait s'en approprier. Désolé, dommage. Omar n'est plus en ligne. On va prendre Gabriel dans un instant, mais il est temps pour nous de retrouver à nouveau notre invité 081-890-6315 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons à vous, Monsieur Louis Watoum, DG de Ivanhoe Mine. Voilà donc, vous avez suivi cette première série des auditeurs. D'abord, quelle est votre réaction? Parce qu'on sait qu'il y a pas mal de préoccupations, mais dans la plupart des préoccupations, les intervenants reviennent sur cet aspect des choses, le découplage entre les sociales et les opérations minières sur le terrain.
Oui, merci. D'abord, je dois dire une chose. Je suis vraiment de cœur avec les différents intervenants, avec Franck, avec Cyril, avec Omar. Et je dirais même un peu plus. Il y a un phénomène aujourd'hui qui est pratiquement universel, qu'on appelle le nationalisme autour des ressources naturelles. Ce n'est pas seulement en RDC. C'est tous les pays du monde aujourd'hui veulent voir plus de retombées de l'exploitation de leurs ressources naturelles à l'envers de leur communauté locale. Ça se passe exactement de la même manière en Amérique latine, en Asie, en Europe, etc. Donc le Congo aussi rejoint aussi ce train-là. Donc le nationalisme des ressources naturelles est un phénomène aujourd'hui universel. Les communautés locales aujourd'hui, elles sont de loin plus sophistiquées que ce qui était il y a 50 ans et plus. Elles ont des aspirations, elles ont des stratégies de développement et elles ont des ambitions légitimes de voir un mieux-être pour eux et pour les générations à venir. Donc cela, je les rejoins à 100%. Et c'est vrai, il y a un gap entre les richesses qui sont générées et la pauvreté qu'on voit dans nos communautés. Maintenant, je ne crois pas que le vrai débat soit se lancer la balle, dire qui la faute, c'est plutôt voir quel est le chemin pour sortir de cette tournière. Et je crois que le dernier intervenant, Omar, il donnait déjà des pistes de solutions ici. C'est vrai, il faut une volonté politique, certes. Mais comme j'ai dit au début, en fait, chacun doit jouer sa partition dans une réalité triangulaire. C'est vrai, l'investisseur amène les capitaux et la technologie.
Mais avec les allégements fiscaux, ce sont plutôt les opérateurs miniers qui en profitent énormément.
Je vais en venir. Mais c'est vrai, l'investisseur est aussi tenu au respect strict de la loi. Et là, il faut, et c'est un appel que je fais à tous mes collègues de l'industrie minière, nous devons prendre les pays qui reçoivent ces investissements au sérieux. Respecter les lois, respecter les communautés locales et être de cœur avec les communautés locales. La meilleure garantie, la meilleure protection, la meilleure police d'assurance qu'on peut avoir, c'est aligner cette politique sur les aspirations des communautés locales qui vous entourent. Ça, c'est extrêmement important. Si vous ne le faites pas, c'est que vous avez une vue à très court terme et cela finira par un sabotage de vos opérations. Par ces mêmes communautés qui vont se lever un jour et vous jeter des pierres, en dépit des milliards que vous avez investis. C'est une réalité. Nous avons 25 ans dans l'industrie minière, nous avons vu des choses qui sont passées. et l'opérateur économique qui aujourd'hui ne comprend pas qu'il faut prêter une oreille attentive aux attentes des communautés. Je crois que cet opérateur creuse sa propre tombe, elle n'a pas d'avenir. Mais maintenant, l'allègement des taxes dont vous parlez. Malheureusement, moi j'ai un bémol là-dessus. Vous savez, si vous regardez le code minier actuel, je suis de ceux-là qui disent haut et fort que sans changer une seule virgule à ce code minier actuel, rien qu'en renforçant la bonne gouvernance et l'administration du secteur minier, ce code minier va rapporter 5-10 fois plus que ce qu'il est censé rapporter. Allez circuler de Lubumbashi à Likasi à Kolwezi. Allez voir la quantité de minerai qui est vendu sur la rue. Ce minerai est extrait en toute illégalité. Il est vendu en toute illégalité. Il est mis dans des fours qui sont opérés par des opérateurs en toute illégalité, avec de l'énergie électrique détournée en toute illégalité. Le produit final est mis dans des camions exportés en toute illégalité. Faites la sommation de tout cela. Et allez voir le manque à gagner, la perte que l'État a. Donc cela, ce n'est pas une question d'avoir allégé les taxes. C'est une question où on a permis qu'une bonne frange de l'industrie minière opère dans l'informel. Si on ramenait tout le monde dans le formel, croyez-moi, JR et chers auditeurs, on verrait un plus dans les revenus de l'État. C'est vrai, il y a des initiatives telles que l'IFIE, où il y a une transparence maintenant dans ce que l'industrie paye à l'État, pour que l'État aussi puisse rendre compte de ce qui est payé. Mais je crois qu'il y a un sérieux effort à faire pour améliorer la capacité de bien administrer le secteur minier et d'y mettre de la bonne gouvernance. Cela ferait la différence. Il n'y a pas de problème d'augmenter les taxes, mais il faut qu'on comprenne que nous sommes aussi en compétition avec d'autres pays. Je vais vous dire une chose, hier, Omar, je te le dirai aussi à toi, enfin on peut se tutoyer ici. Regardez, si vous prenez 5 pays pelotons de l'Afrique de l'Ouest dans le secteur minier, le Mali, la Guinée, le Ghana, etc. Vous mettez 5 pays ensemble, ils ont presque 2,3 millions de kilomètres carrés mis ensemble, un peu comme la superficie de la RDC. Et bien, je vais vous dire que ces pays attirent au kilomètre carré 5 fois plus d'investissements dans la recherche, dans l'exploration. Et je vous dis que l'exploration, c'est la branche recherche et développement de l'industrie minière. C'est ceux qui font la recherche aujourd'hui qui vont construire des mines demain. Mais pourquoi ces pays arrivent à attirer tant d'investissements alors qu'ils ont beaucoup moins de minerais que nous? C'est à cause d'un régime incitatif, d'un régime fiscal incitatif. On peut augmenter les taxes comme on veut, mais on ne vit pas en vase clos. Les capitaux vont simplement s'envoler. Et quand on le dit, il ne faut pas que nos chers auditeurs pensent que c'est un spectre qu'on essaye de dire, écoutez, parce que vous voulez dire cela, les investissements partiront. C'est la réalité. La réalité est que commençons d'abord par faire de la bonne gouvernance chez nous, de la bonne administration avec ce que nous avons. Et on verra alors s'il faut encore améliorer les choses dans un sens comme dans l'autre. Particulièrement aujourd'hui où la conjoncture internationale elle est plutôt à tendance baissière. Vous voulez augmenter les taxes, c'est très bien. Mais quelles seront les retombées de cela? Donc, moi, j'insiste plus sur la bonne gouvernance. Et je continue à dire que chacun doit vraiment jouer sa partition. Je parle des communautés locales ici, maintenant. Parce que les communautés locales se retrouvent aujourd'hui comme étant victimes de cette situation.
D'abord, votre partenariat avec la GECAMINE, oui. Autour de la mine de Kipushi, oui. Qu'est-ce qui a été déjà fait par Ivanhoe Mine au bénéfice de la population?
Avant de répondre à la question, j'aimerais préciser une chose. La mine de Kipushi n'est pas une mine qui produit aujourd'hui. Lorsque nous avons signé le partenariat qui nous a donné accès à 68% en 2011, cette mine était complètement noyée. Et nous venons de dépenser 150 millions de dollars pour dénoyer cette mine-là. Et aujourd'hui, elle est complètement dénoyée au niveau de 1250 mètres, parce que c'est une mine souterraine, un puits assez profond, 1250 mètres. Et maintenant, nous avons commencé un programme de forage, parce qu'il faut tester la continuité des gisements qu'il y a. Donc, il n'est pas du tout exploité. Cependant, pour répondre à votre question maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour la population? Toute la réticulation de distribution d'eau potable à Kipushi aujourd'hui, c'est pratiquement fait par notre partenariat avec la GECAMINE. Il y a encore d'autres offres, financières sociales, etc., qui existent. Je pourrais faire signaler au passage, mais essentiellement c'est surtout l'eau qu'on donne aux communautés. Vous avez l'eau potable.
Et cette découverte intervient dans le cadre de l'exploration ou de l'exploitation déjà?
La recherche, le grand gisement qui a été découvert, le Kamo, hein, qui est à peu près à 40 km à l'ouest de Kolwezi, c'est ce que nous appelons dans notre jargon du greenfield, c'est-à-dire ça a été découvert, rien, absolument rien n'est en surface, il faut maintenant construire. Il faut construire les infrastructures pour pouvoir accéder à ce minerai en souterrain, il faut sortir ce minerai-là, le mettre en surface, et puis le faire passer dans une usine de traitement, dans un concentrateur et produire du cuivre. C'est pour cela qu'il y a encore beaucoup de travail devant nous. Il y a encore beaucoup de travail. Il faut investir.
Il y a des partenaires qui demandent des renforcements, vraiment un regard des uns et des autres, et surtout de la politique du gouvernement.
Absolument, absolument. Mais je tiens à insister sur une chose, parce qu'ici on parle surtout de ce que les communautés locales auront. J'aimerais aussi que l'opinion puisse comprendre une chose. Ça va dans les deux sens, hein, les attentes. Ce que j'ai vu dans ma carrière, c'est que souvent, la plus grande difficulté qu'il faut gérer, ce sont les attentes, qui sont parfois irréalistes. Les communautés locales, c'est vrai, il faut un sens de responsabilité. Pour leur mieux-être, il faut construire des classes, des écoles, il faut construire des centres de santé, il faut leur donner de bourses d'études pour qu'ils puissent étudier et renforcer leurs capacités. Mais on ne doit jamais oublier une réalité simple, la véritable création des richesses. Ce n'est pas une mystique. Elle n'est pas du tout une mystique. Elle consiste à produire un bien ou un service dont d'autres ont besoin et à le leur vendre, à être payé en conséquence, à le faire de manière répétée. Cette capacité de faire de l'entrepreneuriat, de faire des affaires, il y a un rôle important que la communauté locale doit jouer. Et elle a sa part à jouer là-dedans aussi. Je connais des cas, on n'a peut-être pas le temps d'en parler en détail ici, où des opportunités ont été données aux communautés locales de participer à ce genre d'opportunités. Et ce que nous avons vu, c'est que ces communautés locales se présentaient comme communautés locales, mais en réalité, c'était des financements, c'était des écrans, où des intérêts étrangers plutôt bénéficiaient de cela. Pendant que nous pensions, nous, qu'on était en train de renforcer les communautés locales.
Voilà, on va repasser de l'autre côté du standard pour retrouver à nouveau la deuxième série des auditeurs. On s'est accordé la parole aux uns et aux autres. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Indila sera l'invité de l'émission Découverte ce vendredi 13 mars à partir de 14h, heure de Kinshasa. Son actualité et ses projets humanitaires seront au cœur de l'entretien qu'il accorde à Radio Okapi avant son concert de ce samedi 14 mars à 19h à l'Institut français Halle de la Bombée. Indila sur Radio Okapi, c'est un rendez-vous à ne pas manquer ce vendredi 13 mars à 14h dans l'émission Découverte. Parole aux auditeurs.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Nous poursuivons avec Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Gabriel, vous êtes à Colésie. Bonjour Gabriel.
Bonjour JR.
Vous êtes à Colésie et Kamoa est à 40 km de l'ouest de Colésie. Je ne sais pas votre position géographique. Vous êtes à l'ouest, à l'est, Gabriel?
Je ne sais pas aussi exactement, mais voilà. Probablement nous devons être à l'est.
À l'est, voilà. Alors, un gisement de 700 millions de tonnes de cuivre dans une mine de Kamoa, 40 km de l'ouest de Colésie, ça a fait quand même la joie d'une population de Colésie.
Oui, ça fait la joie, mais personnellement, je ne vois pas l'intérêt des Congolais dans tout ça. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Lorsque hier, vous faites l'inventaire des nombres d'expatriés qu'il y a dans les sociétés minières, ça peut vous dépasser. Il y a dans d'autres sociétés minières, le nombre d'expatriés dépasse même le nombre de Congolais. Vous pouvez vous rendre compte, nous avons des compétences qui sortent des universités du Congo, mais à la place des compétences congolaises, on préfère les compétences de l'extérieur. Moi, personnellement, j'ai déjà eu à passer l'interview dans une des sociétés minières, c'est entre Colésie et Lubumbashi, et après mon interview, le monsieur m'avait répondu ceci, « Monsieur, tu es au-delà, tu as la compétence au-delà de ce que nous cherchons, mais pour cette place, nous sommes obligés de prendre un expatrié. » on ne peut pas prendre un local. Je pense que le gouvernement doit limiter le nombre d'expatriés dans nos sociétés minières. Et en plus de ça, nous, Congolais, nous avons des difficultés. Nous avons grandi en français. Nous avons étudié en français. Dans une société minière, maintenant, on exige à fait que, avant d'être engagé, il faut parler l'anglais. Pourquoi? Parce que le nombre d'expatriés dépasse le nombre de Congolais. Pour bien travailler, il faut parler anglais. Pour bien travailler, il faut être de l'extérieur. On peut même chercher un Congolais pour remplacer trois expatriés qui vont toucher 10 fois plus que le Congolais, chacun d'expatriés. Je pense que le gouvernement doit ouvrir l'œil et essayer un peu de suivre, nous aider dans ce sens-là, parce que nous faisons beaucoup d'efforts pour étudier, nous dépensons pour étudier, et à la fin, on découvre les minéraux comme ça, mais nous n'avons pas un intérêt dans tout ça.
Merci beaucoup, Gabriel. Là, ça relance d'ailleurs le débat sur la formation en RDC. Aujourd'hui, faudrait-tu la repenser? Nous avons fait par plusieurs fois d'ailleurs des émissions autour de si jamais la position a été dans le sens de basculer vers les Commonwealth, où on donnerait l'occasion de rester toujours dans la francophonie et permettre à ce que nous puissions évoluer aussi dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, le recrutement, en tout cas, les parmi les conditions de recrutement dans certaines entreprises, et surtout comme on connaît le boom minier, tout s'est fait en anglais, alors il faudrait qu'on envoie conforme les élites congolaises dans ce sens-là, donc pour pouvoir apprendre l'anglais. Merci beaucoup, Gabriel. Je crois que notre invité pourrait nous expliquer un peu le contour des investissements congolais par rapport au taux, hein, parce qu'on parle toujours des déficits hein, entre les investissements congolais et les investissements étrangers dans les secteurs miniers. On y reviendra, Gabriel. Je crois que c'est dans cet esprit-là que vous avez voulu intervenir dans cette émission. Maurice, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Maurice.
Oui, bonjour Gérald Nguembo et bonjour aux auditeurs de Radio Capi.
Vous avez la parole, Maurice. Qu'est-ce faire pour consolider cette performance et ainsi relancer l'économie du pays? Donc, je parle de la découverte de Ivanhoe Mine autour de ces gisements de 700 millions de tonnes de cuivre dans une mine des Kamoa.
Je pense que pour bien analyser la thématique du jour, j'aimerais qu'on fasse un état de lieu sur les ressources naturelles que notre pays a disposées. Dispose et disposera. Parce que, en fait, avec cette découverte, nous devons comprendre que ce sont des richesses qui seront exploitées dans les temps à venir. Alors, par rapport aux ressources ou potentialités naturelles que notre pays a disposées, je dois, par exemple, parler de deux secteurs, notamment les secteurs miniers, prendre l'exemple de l'Anipa. Aujourd'hui, vous pouvez aller voir, constater ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est devenu cette NIBA aujourd'hui? Et vous voyez l'afflux de nos compatriotes de Kasaï, qui sont aujourd'hui des Wewa, qui vivent peut-être dans des conditions extra-humaines, ici, tout ça. C'est parce qu'aujourd'hui, on n'a plus des traces de l'existence de cette NIBA. Et qu'est-ce qu'on a fait de cette NIBA? Et à la dernière nouvelle, vous avez vu que c'est cette NIBA-là qui a soutenu, qui a financé même la guerre de Artel. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les populations riveraines, les populations locales ont-ils bénéficié, en fait, de l'existence de la MIBA? Donc, nous devons d'abord comprendre comment ces ressources ont été gérées. Prenons le secteur des bois. Vous pouvez aller dans les Bandundu, comme dans l'Équateur. Les bois sont exploités dans certains milieux, ou même à vélo, vous ne pouvez pas y arriver. Donc, allez-y comprendre comment se gère ce secteur. Il ne faut pas ici nous emmener à cette découverte, je ne pense pas. Et heureusement que je suis vite, les Congolais sont vraiment très sceptiques quant aux retombées positives, en fait, de cette découverte. Donc, c'est la gestion, en fait, qui pose le problème. Et là, je vais me dire, me poser une question, cette découverte fait-il la joie des gouvernants ou des gouvernés? Ça, c'est la question que je me pose.
Maurice, si nous analysons un tout petit peu, je crois que c'est connu de tous les raisons qui ont été à la base d'ailleurs de la destruction de notre tissu économique aujourd'hui, pour ne pas citer des cas de pillage que nous avons connus en 91 et 93, l'AMIBA, vous citez les cas, on peut aller à la GECAMINE, raison pour laquelle le gouvernement à un certain moment a préféré signer des partenariats en joint venture avec d'autres entreprises pour travailler dans les secteurs. Et nous avons vu à un certain moment, il y a eu la relance de l'économie congolaise. Aujourd'hui, avec cette découverte, on sent qu'on est en train de progresser vers la réussite de cette relance dans ces mécanismes-là. Est-ce que ça ne fait pas faire la joie de plus d'un aujourd'hui?
Non, en fait, la joie, on ne peut pas, ça ne peut pas faire des joies parce que jusque-là, les Congolais s'en souviennent, en fait, de ce que je suis en train de dire ici. Voyons, par exemple, prenons l'exemple des Qatar aujourd'hui. Les Qatar a une réserve, je crois, de pétrole de 150 ans. Vous comprenez? Et dans les 150 ans, vous pouvez aujourd'hui voir les prouesses économiques du Qatar. Les Qatar aujourd'hui comptent pour des élections.
Allons droit au but, Maurice. Que faire pour consolider cette performance? Donc, vous avez pensé de la bonne gouvernance?
En fait, les problèmes résident à la gestion. C'est comme votre invité l'a bien dit. La gestion transparente, orthodoxe, qui manque à ce pays. Raison pour laquelle, lorsqu'on voit la manière dont les richesses sont redistribuées, c'est là que vous allez comprendre que, même à la gestion de ces ressources, les Congolais ne peuvent rien espérer dans le cadre commun. Quand vous prenez le budget national, comment le budget national est redistribué? Vous allez prendre
mais Maurice,
les trois institutions de la République.
Maurice, si nous entrons, nous scritons les codes miniers, mais c'est clair, la répartition de revenus, de ressources, voilà, tout ce que, en fait, l'opération minière génère, la répartition entre le gouvernement, l'opérateur minier et aussi la population, tout est clair dans le code minier, donc je crois que nous ne pouvons pas pérorer autour de cette question, ou encore revenir et engager un débat autour de ça.
Mais les codes, si les codes, moi, je ne sais pas, je n'ai pas en fait les codes dont vous faites...
Alors moi, je vous recommanderais d'abord d'aller lire les codes, les codes miniers.
Mais je ne pense pas que c'est ces codes-là, en fait, qui autorisent à l'État ou au gouvernement qui gère les richesses de pouvoir faire cette gestion-là synergique qui ne respecte pas, en fait, la volonté est populaire. Les richesses là appartiennent aux Congolais et les premiers bénéficiaires sont des Congolais et non sont ces gens-là ou bien sont des expatriés qui viennent.
Merci beaucoup Maurice d'avoir appelé de Kinshasa. Maître John, vous êtes à Kamina au Katanga. Bonjour Maître John.
Bonjour monsieur le journaliste.
Voilà, vous avez la parole. Quel est votre commentaire?
Vraiment, nous sommes très contents d'être associés à ce très bon débat. Les problèmes, mes prédécesseurs ont beaucoup parlé sur ça. Nous savons que nous constatons que c'est le problème de leadership. Découvrir les jugements, c'est bien, oui. Travailler là, produire. En ce qui concerne maintenant la production même qui est produite, la répartition de revenus, le leadership, donc ce qui gouverne là.
Donc vous revenez sur ce que les autres ont dit, Maître John, donc sur la gestion. Alors qu'est-ce que vous proposez pour consolider cette découverte? Pratiquement pour garder cette performance et maintenir la bonne position qu'occupe aujourd'hui la RDC au niveau mondial dans l'exploitation minière à la matière, en matière de cuivre. Voilà, on comprend la distance.
Notre contribution vraiment serait...
Voilà, désolé, on ne saura pas vous garder le plus longtemps parce que, vu la distance, vous êtes à Kamina et des fois vous nous recevez avec un petit retard, ça ne nous permet pas d'avancer dans ce débat. 081-890-7315 pour votre intervention en direct et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous revenons à vous, DG Watoum, pour, disons, répondre aux uns aux autres par rapport à cette deuxième série des auditeurs. C'est vrai que les uns ont évoqué l'aspect investissement, parce qu'on se rend compte qu'il y a un déficit au niveau des investissements congolais. Disons, les investissements étrangers sont très élevés par rapport à... Qu'est-ce qui expliquerait cela?
Ben, j'aimerais évidemment d'abord revenir à la question ou à la préoccupation de Gabriel, qui s'appelait de Colosi. Et Gabriel, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention et je partage votre frustration. Vous avez parfaitement raison dans ce que vous dites. C'est une inadéquation qu'il faut arrêter. Il faut arrêter à tout prix. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il faut engager les compétences locales. C'est d'abord parce que c'est leur pays, d'abord, avant tout. Mais deuxièmement aussi, l'investisseur qui est intelligent, c'est celui qui doit faire confiance aux locaux. Parce que ce que nous avons constaté dans notre métier, dès qu'il y a une petite insécurité ou un petit malaise politique dans un pays ou quoi, dès que les balles crépitent, les premiers qui font leurs valises et qui s'en vont, ce sont les expatriés. Mais les locaux restent là parce que c'est chez eux, ils vont nulle part. Ils continuent à faire tourner les machines. Et donc, il y a plusieurs raisons qui font que même l'investisseur lui-même, c'est dans son intérêt, en fait, d'employer les locaux. Malheureusement, ce n'est pas le cas comme vous dites, mais c'est un effort que nous devons tous faire. Et ici, c'est vrai, l'État doit être interpellé. Mais aussi, ses investisseurs doivent être interpellés aussi. Je suis certainement de ceux qui pensent que parler anglais n'est pas signe d'être intelligent. Aujourd'hui, au Congo, il y a énormément de compétences. Énormément de compétences à tous les niveaux. Nous les voyons ici au pays, nous les voyons à l'étranger aussi, où ils sont en train de briller. Et ici, je fais un appel à ceux qui nous écoutent à l'étranger. Et leur demande de revenir. Ça, c'est un grand chantier aujourd'hui en développement, la RDC. Il faut revenir à la place pour tout le monde. Nous devons nous battre pour cela, pour que cela puisse se faire. C'est un combat qui est collectif. Il y a l'État, il y a les investisseurs, et il y a nous-mêmes qui devons faire la pression là-dessus. C'est vrai, du point de vue, il y a un doigt accusateur vers la mauvaise gestion. C'est vrai. Quelque part, il faut vraiment qu'on améliore la gestion et la bonne gouvernance.
La répartition,
Absolument, c'est important. C'est important parce que si on ne gère pas bien les choses, on peut continuer à changer les lois.
Mais qui prend la grosse part? Est-ce que c'est les gouvernements? Est-ce que c'est l'opérateur minier? Parce que le commun mortel a besoin de cela. C'est vrai que le code minier est clair là-dessus.
Oui. Moi, je me ramène toujours à ma réalité triangulaire. Je crois que les responsabilités sont partagées. Et les investisseurs, il y a le leadership politique, disons les gouvernants, et puis il y a les communautés locales. Les gouvernants, regardez l'exemple du Chili, par exemple. Dans les années 70, les réformes que Pinochet avait fait à l'époque, c'est pratiquement ces réformes-là qui ont été précurseurs à ce que le Chili est aujourd'hui en termes de puissance productrice de cuivre. Il faut que l'État ait le courage de faire les réformes nécessaires et avoir la bonne gouvernance pour que réellement ces richesses puissent bénéficier aux Congolais. J'ai le rapport Fraser Institute, c'est un institut très respecté au Canada, qui a fait un inventaire, un classement des juridictions minières au niveau mondial. Ce sont 180 et quelques pays qui ont des richesses naturelles minières. Je peux vous dire que la RDC est dans le peloton des trois, quatre premiers pays. Et si vous regardez devant la RDC, c'est des pays tels que l'Alaska, la Mongolie, où le climat est tellement aride qui fait du moins 40 et du moins 50 degrés. Et donc, techniquement, la RDC est peut-être au sommet, au top du monde aujourd'hui en termes de ressources minérales. Mais quand vous regardez le classement dans la même étude, du point de vue de la bonne gouvernance, bien sûr, nous sommes à la queue. Et cela dit clairement, ça reflète un peu la préoccupation de tous les auditeurs, de tous les intervenants qui ont un sérieux pour affaire. Et c'est vrai, il y a un doigt accusateur vers le leadership, vers nos gouvernants. Mais je veux aussi dire qu'il n'y a pas que, il y a aussi les communautés locales. J'ai parlé de la création de richesses ici. Il y a des capacités qu'il faut renforcer. Disons, cette culture paternaliste qu'on a reçue des Belges à l'époque et leur système élitiste qui nous prédispose plus à faire carrière quand vous êtes intellectuel, à faire carrière dans une entreprise et non pas à aller créer votre propre entreprise pour créer des richesses. C'est aussi un déficit que nous devons surmonter. Moi, je vois nos collègues de l'Afrique de l'Est, par exemple. Ils ont une culture d'entrepreneuriat, de la gestion des projets. Mais ces choses, on ne les apprenait pas. Je suis polytechnicien ici, JR. Je suis ingénieur de polytechnique. J'ai beaucoup de respect pour les études. Je suis sorti d'un système éducatif belge. Et j'ai continué dans un système éducatif anglo-saxon. Et je parle ici en connaissance de cause. Les Belges nous ont appris à être élitistes, à faire carrière. C'est ainsi que quand vous êtes viré d'une entreprise, tout ce que vous faites, c'est vous mettez votre CV à jour, vous allez encore chercher de l'emploi. Vous ne prenez pas le temps de reculer, de vous dire quel service ou quel bien je peux produire, vendre et pour faire de l'argent. Et c'est ça la mystique de la création de richesse. C'est ça.
Avant que vous le poursuivez, il y a une dame qui nous appelle de très loin, de Boston, aux États-Unis. Boston, voilà, c'est la deuxième ligne, je crois, mais Madame Joséphine, vous êtes avec nous?
Bonjour, Radio Locopapi.
Voilà, vous appelez des Boston, oui, aux États-Unis.
Le sujet d'aujourd'hui est très intéressant. J'ai écouté beaucoup des autres auditeurs, surtout celui de Colésie. Il est en train de pleurer parce que là où il vit, c'est la catastrophe. J'ai déjà dit que le Congo, le gouvernement congolais, j'avais comparé dans le temps dans une émission pour dire que la période de Mobutu, de Kabila le papa et puis Kabila ici. On a trop ouvert le Congo sans pour autant connaître ce que le Congo appartient, ce que le Congo a comme
besoin,
le potentiel minéré. Mmh. C'est très bien, je suis très content. Comme vous, hier, vous voulez seulement la solution.
Mmh.
La solution est que qui a d'abord trouvé les gisements là? Il faut se poser de simples questions.
Mm-hmm.
Qui a trouvé les gisements là? Vous verrez que les personnes qui ont trouvé, les géologues ou bien qui qu'ils sont, il n'y a même pas de Congolais. Les experts qui ont trouvé.
Oui, madame. Oui. Voilà, madame,
laissez-moi terminer.
Non, si vous le permettez, pour vous éclairer à ce sujet. Oui, si vous me permettez, pour vous aider à poursuivre, je l'ai dit tantôt, peut-être que vous avez pris en cours de l'émission, le gisement a été découvert par l'entreprise Ivanhoe Mine. Nous avons le plaisir d'ailleurs de recevoir son directeur général dans ce studio. Voilà, donc c'est un gisement qui va au-delà même de l'estimation de la réserve mondiale de cuivre, qui serait autour de 480 et 600 millions de tonnes. Voilà, c'est pour vous aider à poursuivre, madame.
Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'auditeurs qui ont appelé pour dire qu'il y a un problème de langage d'abord. L'expert qui est là, peut-être lui-même parle anglais, il était avec les autres experts quand on a trouvé. Comme on connaît que c'est un jugement qui a beaucoup de valeur, nous avons d'autres jugements, nous avons d'autres minéraux. On peut encore attendre. Attendez, vous dites merci beaucoup, vous avez trouvé ce gisement. Le gisement a telle potentialité de cuivre, comme vous avez dit. Mais nous travaillons d'abord les autres.
Les gisements qui sont déjà.
Le Congo, c'est comme une maison là où papa et maman sont en train de divorcer. Maintenant, il y a un voisin qui vient demander les enfants. Mais comment, parce que papa et maman sont en train de divorcer, il n'y a pas moyen de donner les enfants aux voisins parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas encore s'entendre pour donner l'enfant. Ce sont des simples. C'est très simple. Il y a d'abord le problème d'anglais qu'on a amené, les entreprises minières qui sont au Katanga, qui sont à l'Est, qui sont partout au Congo. Ce sont des entreprises anglophones. Le Congolais parle, il part à l'école en français. Il est très intelligent en français. Nous avons des Congolais ici aux États-Unis. Moi, je vous dis que le Congolais est très intelligent. Nous avons le Congolais dans tous les secteurs. On nous demande de rentrer. Mais qu'est-ce qu'on fait aux Congolais qui rentrent pour le moment? Parce que papa et maman sont en train de discuter pour avoir les efforts.
Voilà, il y a une politique déjà. Voilà, madame Joséphine.
Le salaire sera de combien pour quelqu'un qui va rentrer là-bas?
Alors, Joséphine, je suis en train de réfléchir. C'est vrai, mon intention de pouvoir aller à l'encontre de ce que vous avez dit, bon, ma question, donc on peut considérer qu'aujourd'hui, le préalable pour consolider, et d'ailleurs, cette performance, c'est simplement réformer, passer à une réforme très stricte au niveau de l'enseignement, de la formation d'abord, et puis deuxièmement, permettre à ce qu'on puisse stopper, qu'on ne passe pas à l'exploitation active de ces gisements, mais plutôt nous focaliser sur des gisements déjà existants, pour permettre à ce qu'on puisse exploiter et aller finalement à intéresser aussi la population pour que la population se retrouve. C'est là, Joséphine.
Je compte que c'est là, pas même au niveau des écoles, au niveau des universités. On doit asseoir un gouvernement fort qui connaît comment négocier, comment aller sur la table pour négocier tous les gisements, pour négocier.
Voilà, pour négocier la valeur du Congo. Merci
beaucoup. Le gouvernement ne connaît pas la valeur du Congo.
Voilà. Donc c'est un élément très important, Madame Joséphine. Aujourd'hui, c'est vrai, on a découvert les gisements, la gestion. De vos prédécesseurs sont revenus, ont posé la question sur la gestion même de ces gisements. Et vous venez de ressortir aussi un aspect particulier, la négociation entre ceux qui ont eu le temps de découvrir ces gisements et aussi le consommateur au finish. Donc au final, donc pour que finalement la population se retrouve. Merci beaucoup, Maître Sonville. Vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Maître Sonville.
Oui, bonjour Monsieur J.R. et bonjour à tous les auditeurs et bonjour aussi à l'invité.
Voilà, vous avez la parole Maître Sonville. Quel est votre commentaire?
Oui, d'abord félicitations à cette entreprise minière qui a mis beaucoup de millions pour cette découverte.
Mm-hmm.
Mais néanmoins, il faut que pour consolider cette richesse, il faudrait que la gestion soit rationnelle. Quand on parle de la rationalité de la gestion, on fait allusion à la transparence. Et quand on parle de la transparence, il faut qu'il y ait une volonté politique des gouvernants. Et c'est ce qui va amener à une bonne gouvernance. Et cette bonne gouvernance peut être appuyée par le respect du code minier qui est appelé à être révisité. Puisque le code minier qui est pour le moment a été adapté au temps de la guerre. Mais ça devra être révisité pour que les contrats sociaux qui se retrouvent au sein de ce code minier puissent prendre en considération l'intérêt de la population des autochtones. Puisque jusqu'à présent, nous constatons qu'il y a une adéquation entre les ministères miniers du pays et le défi quotidien. Ce contrat social qui peut amener aux autochtones à un bon vécu quotidien. Et à l'instar de ça, M. J.R., nous avons vécu ici à Lubumbashi, au Katanga, les entreprises minières, lorsqu'ils occupent un espace quelconque, pour même indemniser et délocaliser, c'est tout un problème. Et ces investisseurs doivent aussi lutter contre la pollution, parce que presque tous les quartiers où sont érigés, les mines de l'industrie sont pollués au détriment de la population. Mais là où le bas blesse, c'est quoi? Dans cet investissement-là, j'ai appris de par votre allocation, c'est-à-dire que l'État a au moins 5% et l'entreprise minière a 95%. Comment ça peut se négocier de cette manière-là? Et comment est-ce que dans ces 5%, la population, le gouvernement congolais, les gouvernements et la population congolaise peut se retrouver? Et comment entrevoir l'avenir avec sérénité pour que cette génération future puisse jouir aussi de cette richesse? Parce qu'aujourd'hui, si nous parcourons le Katanga, il y a des entreprises minières qui laissent des galeries, qui laissent des espaces vides là. Et quel sera le bénéfice de la génération future?
Mais Maître Sonville, est-ce qu'on peut vous garder un peu en ligne le temps de rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent également nous joindre dans cette émission en composant les 081 890 63 15, et ils ont également la possibilité de poster leurs commentaires sur notre page Facebook. Voilà, merci de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine de débat citoyen. Arsène, vous êtes à Kikwit et Dédé à Kinshasa. Gardez la ligne, le temps pour nous de revenir à vous. Monsieur Louis Ouattoum, vous êtes DG des Ivanhoe Mines, cette entreprise qui a découvert ces gisements de 700 millions de tonnes de cuivre dans une mine de Kamoa à 40 km de l'ouest de Kolwezi. Voilà, donc le débat, vous avez senti qu'il y a même des appréhensions, il y a de la passion aussi dans les interventions des uns et des autres. Alors, il y a madame qui est revenue comme d'autres, comme ses prédécesseurs, sur la langue, mais qu'elle a insisté aussi, au fait, tabula rasa, il faut laisser les gisements qu'on vient de découvrir, mais nous attaquer d'abord à ce qu'on a déjà découvert avant.
Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de passion, évidemment. Oui. C'est un peu ce que je disais, c'est le nationalisme, en fait, des ressources naturelles, et c'est normal, c'est légitime que tout fils de ce pays et toute fille de ce pays se sent frustré aujourd'hui de voir tant de richesses générées et très peu de changements, si pas de changements, dans le vécu quotidien des Congolais. C'est vrai, le capitalisme a un côté sombre. Celui qui prend le risque d'amener son financement, il s'estime légitimement en droit de jouir des biens qui sont générés et a une tendance à penser aux communautés en deuxième lieu. Mais c'est une erreur. Et c'est là que je rejoins Maître Sonville de Lubumbashi. Il a parfaitement raison dans son intervention. Tout se résume à la bonne gestion, à la bonne gouvernance. On doit absolument... il y a maintenant ce concept de responsabilité sociétale des entreprises. La tonne de cuivre, la tonne de cobalt, la tonne d'or, ou de coltan, etc., qui est extrait de notre pays, ne va plus repousser. C'est pour cela qu'il faut que chaque tonne qui est extrait soit fait en toute responsabilité, du point de vue du respect de l'environnement, du point de vue de la gestion des attentes des communautés et des différentes parties prenantes, et bien sûr dans le respect des lois. Cela est très important.
Voilà, on va revenir à vous pour la conclusion de cette émission. Il est temps de prendre la dernière série des auditeurs. C'est vrai que vous êtes nombreux, nous avons reçu vos messages, nous ne saurons pas tout lire aujourd'hui. Vous avez compris que la matière était tellement abondante que nous avons souhaité d'abord accorder le temps à notre invité et aussi à certains auditeurs qui intervenaient en direct, mais c'est qu'une partie remise. Nous allons verser ça dans la boîte à archives de nos réflexions et analyses. Al Kitenge, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, JR.
Vous avez souhaité faire le point d'ailleurs sur la valorisation de la réserve, parce que c'était parmi vos inquiétudes, la valorisation de cette réserve qui vient d'être découverte.
En fait, je voudrais d'abord féliciter Louis Watoum qui est avec vous sur le plateau et féliciter Ivan Noé. Je voudrais que vous profitiez de la présence de Louis Watoum parce qu'il comprend bien la matière pour me poser la question de savoir quelle est la valeur estimée de cette réserve. Et combien d'années cette réserve peut-elle être exploitée? Pourquoi je pose cette question? Parce que c'est sur base de la valeur estimée de la réserve qu'ils vont être en mesure de lever les fonds pour faire l'exploitation. De la même manière, l'État devrait savoir que s'il connaît la valorisation des différentes réserves dont il dispose, il peut, comme les entreprises, lever les capitaux et mettre en place les infrastructures et donc améliorer le cadre dans lequel on opère dans ce pays, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le climat des affaires. Ça lui permettrait également de réduire les coûts d'exploitation des entreprises et donc prétendre à un peu plus de revenus par rapport à l'exploitation même des exploitants miniers. Je souhaite beaucoup que Louis puisse être en mesure de commenter cela.
Merci beaucoup, Al Kitenge, d'avoir appelé de Kinshasa. Afin, vous êtes à Kikwit. Bonjour.
Bonjour, monsieur Julien, et bonjour à tout le monde.
Rapidement, Afen, vous avez une minute.
Ok, merci. Je suis une prédécesseur, je félicite l'invité et Al Kitenge qui a appelé de Kinshasa.
Qui a fait le point, d'ailleurs.
Mais ouais. Ma question est celle-ci. Je suis notre invité, il a parlé du triangle qui constitue l'acteur principal de la production. Mais quelque part, je voulais poser la question de savoir. Je vis en Égypte, Al-Sisi initie l'agrandissement du canal de Suez. Quelque part, il a ouvert une brèche pour permettre aux Égyptiens de participer comme actionnaires dans cette entreprise. Aujourd'hui, nous travaillons dans nos entreprises et nous n'avons pas assez près de pouvoir parce que les investisseurs ont leur ligne de conduite. Pourquoi ne pas mettre une brèche où les Congolais se retrouvent aussi? Moi, par exemple, je suis activiste, je trouve qu'il y a une belle histoire qui se passe au Katanga et je veux y participer en tant qu'homme d'affaires. Quelle serait ma participation? Quelle est l'action? L'action serait à combien? Je ne suis pas économiste de formation, mais je voulais savoir si aujourd'hui je voulais participer. Quelle serait ma part d'action? L'action va coûter combien? Pour que demain, si nous sommes à 1000 Congolais ou à 2000 ou à 1 million de Congolais, pour que nous ayons aussi un poids pour permettre à ce que cet investissement soit approprié et que demain, au cas où nous connaissions encore une chute comme la Gécamine l'avait faite, et que nous puissions nous-mêmes prendre ça en charge et remonter l'entreprise et travailler pour l'avenir de nos enfants. Voilà, c'était ma question.
Merci beaucoup, Arsène. Alors, Dédé, vous êtes à Kinshasa, Dédé, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole, Dédé.
Bonjour à votre invité, bonjour à tous les auditeurs qui sont passés avant moi. Moi, je voudrais intervenir sur cette entreprise. On a toujours l'habitude d'être de pleurnicheurs, nous, de Congolais. Je me suis toujours fié au dire de John Kennedy, un bon citoyen qui se pose la question de savoir et qui peut faire son pays et non ce que le pays peut faire pour lui. Alors, nous, il nous avait bien dit de nous assumer. L'heure n'est plus aux pleurs. L'heure est de se prendre en charge. Nous devons tous contribuer au développement de notre pays. Le minerai, on en trouvera. Nous, j'ai lui-même a bien dit que la République démocratique du Congo était une catastrophe naturelle en termes de minerai. Alors, partout où nous sommes, Congolais, nous devons chercher à nous ingérer et à revendiquer nos droits d'une manière pacifique pour gouvernants de nous prendre en charge. Si nous restons chaque fois en tête d'entente de discussions techniques, je ne sais pas où il faut faire ceci, il faut faire là, il faut donner des autochtones, je sais, nous n'aurons rien. Nous devons nous assumer. Il n'y a pas d'invitation à la cour de grand. Si nous voulons devenir grands comme pays, voilà, ici en Afrique, nous devons tous nous intéresser à tout ce qui se passe dans notre pays, que ce soit politique, que ce soit en termes de général, que ce soit en termes de n'importe de quoi. C'est ma petite intervention.
Merci beaucoup, Dédé. Nous profitons d'ailleurs pour dire merci à tous les internautes qui ont pensé à contribuer pour cette émission. Blaise Kouseka, Kevin Lino, Patou Bokebe, Emmanuel Papitio, Maxime Kabila de Lubumbashi, Bénédiction Migo de Bukavu, Godefroy Chitoko Ngalula de Chimbulu, Fanny Jenga de Durban en Afrique du Sud, Héritier de Wada, et tant d'autres, il y a Franck Mbaki, Wadoulou de Mbandaka, Jean-Robert Kazadim Bungu de Mweneditu, Francis Maloko Bopika, Jacques Biaouda d'Ouvira aussi de Kivu, Richard Isungu de Kinshasa, et tant d'autres. Donc nous vous disons à vous tous merci. Voilà, donc on ne fera pas tout lire aujourd'hui. Vous étiez à trois nombreux à nous avoir envoyé vos messages sur cette découverte d'Ivanhoe Mine qui élève en fait la RDC ou qui la maintient donc parmi les 10 premiers producteurs mondiaux de cuivre. Merci beaucoup. Alors nous revenons à vous pour conclure, monsieur Louis Watum. Vous avez suivi, il y a Al Kitenge qui a parlé de la valorisation de la réserve et Arsène qui a insisté sur la participation des Congolais.
Oui, c'est toutes des très bonnes questions. Al Kitenge, je te salue aussi en passant. Aujourd'hui, à ce jour, on doit toujours faire la différence entre la valeur du projet sur le marché et sa valeur intrinsèque. Sa valeur intrinsèque, c'est lorsqu'on regarde les 760 millions de tonnes de cuivre à une teneur moyenne de 2,5 ou 3%, on a une certaine quantité de cuivre là-dedans, et il faut simplement multiplier cela par le cours du cuivre à ce jour. Et on peut trouver sa valeur intrinsèque aujourd'hui. Mais la valeur qui importe plus, c'est celle que le marché est disposé à offrir aujourd'hui. Parce que peu importe ce que vous avez en tête, le marché a une idée de ce prix-là qui va vous offrir, si vous voulez le vendre aujourd'hui par exemple. Et à ce jour, cette valeur du marché, elle est estimée à un peu plus de 2,5 milliards de dollars. Donc, pour paraphraser Al Kitenge, si l'État congolais aujourd'hui à 2,5 milliards de dollars peut acheter ce projet. Et au-delà de ces 2,5 milliards de dollars, il faut compter environ 5 milliards de dollars d'investissement en infrastructure, souterraine et de surface, concentrateur, usine, smelter, etc. Donc, c'est ça l'argent qu'il faut aujourd'hui pour prendre ce projet, le construire, le développer et le faire fonctionner. Une bagatelle d'environ 7,5 à 8 milliards de dollars. L'actionnariat congolais, je crois qu'il faut en parler à deux niveaux. Ivanhoe, ici en RDC, fait partie d'un groupe qui est Ivanhoe International, qui a un listing à Toronto. Quand on a un listing sur un marché boursier, on est une société publique. N'importe qui peut acheter une action dans une société, dans un marché public. Même en étant à Kinshasa, ou à Lubumbashi, ou à Kolwezi, on peut acheter des actions aujourd'hui. N'importe qui peut acheter. C'est pour ça qu'on appelle ça un marché public. Et vous allez dans l'internet, les prix de l'action sont là. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont à environ à 85 centimes, je crois, l'action. Vous pouvez aller acheter aujourd'hui, personne ne nous empêche d'acheter. Mais je crois peut-être que notre frère, ami, il se rappelle plus à l'actionnariat ici au niveau national. Par exemple, la mine de Kamoa, quand elle se met à fonctionner. Est-ce que les communautés locales, est-ce que les opérations économiques, les personnes, les investisseurs peuvent avoir un pourcentage de cela? Je crois que c'est à cela qu'il faudrait. Oui. Et c'est un peu cette politique que nos frères sud-africains appellent Black Economic Empowerment, où l'État prend une option pour dire à cette entreprise, écoutez, ouvrez votre capital aux communautés locales à raison de tant de pourcents. Et que ça fasse tout cela acquérir et puisse.
Alors, on ne devrait pas rater, vous avez été primé à Toronto, parce que vous pouvez nous brosser juste en une minute avant de nous séparer.
Oui, nous avons été
primés par rapport à cette découverte.
Nous avons été primés par rapport à cette découverte. Ce n'est pas simplement à cause de la taille de cette découverte, mais c'est aussi parce que cette découverte remet en cause, dans le monde scientifique, disons l'entendement ou la compréhension de la modélisation géologique. Les experts géologues mondiaux se sont réunis et se sont posé la question, comment a-t-on pu découvrir un gisement de cette taille dans cette location-là? Parce que toute la couverture, c'est un sable calarien dessus. Vous allez jusqu'à Kolwezi, il y a une concentration de mines. Au-delà de Kolwezi, il n'y a plus de mines. il n'y a plus rien. Et on
voilà. Personne ne pensait qu'on allait. On va y revenir dans un autre débat pour savoir les motivations de cette prime qui a été accordée à votre entreprise. Ivan Noé Bail, monsieur Louis Watoum, vous êtes DG de cette entreprise qui travaille d'ailleurs en conjonction avec la GECAMINE dans l'exploitation minière de la mine de Kipushi dans le sud du Katanga. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous remercions tous les auditeurs qui ont participé à ce débat. On prend rendez-vous demain dans un autre numéro. L'émission vous a été coordonnée et présentée par J.R. Mugembo. La réalisation de Pierre Lavezzi et Julie Feza au Bongonda. À très bientôt.